Salut à tous, sixième journée à Roland-Garros avec le début du troisième tour et l'arrivée de la pluie du côté de la Porte d'Auteuil. Heureusement, celle-ci n'a pas trop perturbé le déroulement des matchs. Une journée marquée par la victoire de Medvedev qui prouve qu'il est peut-être en train de devenir un joueur de terre battue. Celle d'Alexander Zverev qui prouve lui qu'il est un candidat sérieux à la victoire finale. Et le succès de Serena Williams qui sera à l'honneur dans notre question qui fâche. Il y a des choses à débattre avec Camille Pin, Cyril Morin et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
Salut Adrien.
Salut Adrien.
Salut.
Nous évoquerons pour débuter. Et oui, ça va. J'ai l'impression que vous êtes en forme ce soir.
On est en pleine forme.
Nous évoquerons pour débuter les jeunes pousses. Pas la next-gen, mais la next-next-gen. Les Sinner, les Musetti, les Alcaraz qui jouent samedi avec cette question. Qui est le plus prometteur dans la next-next-gen? Ce sera notre débat du jour. Sans oublier la stat de Je sais tes maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Et l'affiche à suivre samedi avec un Goff Brady. Terre débattue, c'est parti. Alors le débat du jour, on a beaucoup parlé de la next-gen ces dernières années. On va aller plus loin dans la jeunesse et évoquer ces jeunes joueurs qui vont tenter samedi de rallier la deuxième semaine du tournoi. Les Italiens Yannick Sinner et Lorenzo Musetti, 19 ans tous les deux, et Carlos Alcaraz, l'Espagnol, 18 ans. Selon vous, quel est le plus prometteur dans cette next-next-gen ? Allez, vas-y, Camille.
Alors, aujourd'hui, quand on regarde sur le papier, c'est forcément Yannick Sinner qui a déjà confirmé sur plusieurs mois qu'il est capable d'être un des meilleurs joueurs du monde actuel avec les seniors. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'ils sont seniors, ils ont moins de 20 ans. C'est hallucinant d'avoir un Yannick Sinner déjà dans le top 20 aujourd'hui. En revanche, j'ai quand même un petit faible pour Lorenzo Musetti, que j'ai découvert la semaine dernière. On avait parlé, mais je n'avais pas eu l'occasion de le voir jouer. C'est peut-être le nouveau Roger. En fait, il a...
Carrément.
Extraordinaire.
Et son idole, en tout cas.
Parce qu'il a ce relâchement et ce talent dans la raquette. On parle de talent, mais il y a plein de talents différents. Lui, il a ce talent de sensibilité qui lui permet de jouer n'importe quel coup, à n'importe quel moment, avec une implication. Mais d'un autre côté, il est peu, on va dire, peu émotif. De temps en temps, il sort légèrement du match parce qu'il veut en faire trop. Mais il a tellement d'outils qu'il suffit que d'ici un ou deux ans, il arrive à bien les canaliser. Il va faire très mal.
J'ai dit 76e joueur mondial qui affrontera Marco Cecchinato, un autre Italien.
Ça va être un sacré duel de revers à une main qui s'annonce, Adri. Moi, je suis d'accord avec Camille. Le choix du cœur, c'est Musetti parce que ouais, c'est une petite merveille. Et il a une espèce encore d'insolence presque dans son jeu qui est très agréable, alors qu'il colle aussi avec son âge. Mais son tennis varié s'allie bien avec des petites facéties quand même qui arrivent parfois pour nous régaler par-ci par-là. Donc, ouais, gros coup de cœur sur Musetti. Je l'ai vu aussi un petit peu sur ce début de quinzaine. Et j'ai hâte de le voir pendant ce troisième tour. Ça va peut-être être compliqué, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes dans la raquette.
Laurent, pour parler de ces trois-là, pour commencer, quel est celui qui te séduit le plus ?
C'est difficile parce qu'ils sont vraiment différents tous les trois. C'est vrai que Musetti il a quelque chose. En plus, il a quand même du charisme, je trouve. Et donc, je disais par rapport à ce que disait Camille tout à l'heure, Roger Federer, c'est son idole d'enfance. Il a grandi vraiment. Il était à peine né, il devait avoir même pas un an et demi quand Federer a gagné son premier grand chelem, mais il a grandi vraiment en étant fan de Federer. Et son modèle sur le circuit, c'est Stefano Tsitsipas. Donc on voit quand même assez bien la corrélation et la cohérence dans tout ça. Je pense que c'est un joueur qui est très excitant, qui doit encore un peu structurer son jeu. Et son coach Simone Tartarini dit d'ailleurs que c'est un joueur très instinctif. Il essaye de trouver le bon équilibre entre comment structurer davantage son jeu sans dénaturer ce côté très instinctif. Donc, je pense que pour lui, dans les mois qui viennent, ça va être ça la clé pour qu'il puisse continuer à progresser. Après, Camille l'a dit, c'est presque difficile de comparer les trois parce que Sinner, on oublie, il n'a pas encore 20 ans. Il aura 20 ans cet été, je crois.
Ah, ils ont peu d'écart, tout ça, là.
Oui, mais Alcaraz a 18 ans, il a quand même un an et demi de plus, mais surtout, il est vraiment. Il a joué une finale de Masters 1000, et tout chez Sinner le rend plus âgé qu'il n'est réellement. son jeu. Physiquement, il est très, très en avance. Tactiquement, donc, même son état d'esprit presque. Donc, quand je le vois, quand je l'écoute, quand je le regarde, j'ai parfois tendance à oublier que c'est un gamin qui n'a pas encore...
Il est très mature en plus.
Mais ultra mature, et à la fois dans son jeu. Là-dessus, il me rappelle un petit peu Félix Auger-Aliassime, qui, pareil, a 18 ans, 18 ans et demi, et en paraissait 2-3 de plus. Donc, là-dessus, c'est ça qui est assez phénoménal chez Sinner. Parfois, c'est rare, mais parfois, il fait son âge. Je pense à la finale du Masters 1000 de Miami contre Urkas. Oui, il passe un petit peu à côté quand même, alors qu'il était presque favori, et ça en dit long. Il a 19 ans, il est en finale de Masters 1000 pour la première fois, et on est surpris qu'il perde. Alors que, bon, voilà, c'est... Mais en même temps, ça en dit quand même très long sur ce qu'il est déjà. Je pense qu'il est plus très loin de bousculer les meilleurs. On se souvient de son match contre Nadal à Roland l'année dernière, où vraiment pendant un set, il joue pied à pied avec Nadal. Alors après, comme beaucoup,
en quart de finale en plus, hein.
En quart de finale.
En quart de finale, après, il avait battu Zverev en huitième.
Il avait battu Zverev, ouais. Mais j'avais presque été plus épaté par son début de match contre Nadal que par le fait qu'il ait battu Zverev, qui sortait de l'US Open. C'était compliqué mentalement, physiquement, je pense, pour Zverev, même si c'était une grosse perf, on est d'accord. Donc, Sinner, c'est clairement, il est au-dessus. Maintenant, attention, hein, Carlos Alcaraz, il a 18 ans. Alors, en Espagne, on le compare pour plein de choses à Rafael Nadal. D'ailleurs, c'est marrant parce que Musetti et Alcaraz sont très amis. Ils s'entraînent souvent ensemble. Et Musetti racontait que son coach est en contact avec Juan Carlos Ferrero, qui est le coach d'Alcaraz. Et ils essayent le plus souvent possible d'organiser des sessions d'entraînement ensemble. Et finalement, il dit qu'il est presque plus proche d'Alcaraz que de Sinner, parce que cette année d'écart, mine de rien, elle fait qu'il a, et comme Sinner a été très précoce, Musetti a presque jamais joué avec Sinner. Et il est presque plus proche de Fognini aussi, qui est son grand frère. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, Sinner est un petit peu isolé, entre guillemets. Donc, voilà.
Après, moi, je trouve c'est intéressant que tu mettes en avant les entraîneurs, parce que j'allais y venir. Yannick Sinner, entraîné par Piatti depuis qu'il est tout petit. Honnêtement, on se dit que là, toute sa carrière est tracée, c'est-à-dire qu'il a un vrai mentor qui a eu des résultats exceptionnels en tant que coach. Donc déjà, le jeune homme a 19 ans, il a une maturité, il a le tennis entouré par Piatti, on se dit qu'il ne peut rien lui arriver. Musetti, j'ai eu l'occasion de voir comment il fonctionnait avec son entraîneur, avec qui il a une très belle relation. Il était notamment tous les jours le premier à prendre un cours d'entraînement sur la semaine avant Roland-Garros sur le tournoi de Lyon. C'est-à-dire que je savais que le matin, 8h30, c'était Musetti plus coach. Donc, on se dit que ce sont des jeunes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne jouent pas que sur le talent. Il y a du travail, parce qu'on peut se dire, Musetti, c'est vrai qu'il il arrive à faire plein de choses, il est fantasque, mais ça bosse dur. Et ça, c'est grâce aussi au cadre que met son entraîneur. Il n'y avait pas 15 000 personnes autour. Il y a un mentor. Et j'imagine qu'Alcaraz, c'est la même chose avec Ferrero. Donc, je trouve qu'il y a le talent, mais il y a aussi une belle structure derrière pour arriver à leur fin. Et c'est pour ça que je pense que ces trois-là, de toute façon, à un moment donné, ne peuvent pas être aussi forts sans arriver top 10 dans quelques années.
Pour en revenir au cas de Sinner, moi, il y a quelque chose qui me sidère vraiment, c'est son côté... implacable un petit peu. Et d'ailleurs, c'est Bublik qui expliquait ça très bien en mars dernier. Après l'avoir affronté, il expliquait « j'ai l'impression d'avoir affronté un robot » parce qu'il avait quelque chose mentalement, une espèce de dureté mentale que finalement, très, 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 très peu de joueurs sur le circuit avaient. Et toute comparaison gardée, si certains qui nous écoutent aiment bien le foot, il me fait penser un petit peu à Erling Haaland, c'est-à-dire que c'est des machines implacables qui marquent ou qui gagnent. Et finalement, on voit assez peu de failles, en tout cas mentales. Et c'est incroyable que ce gars-là n'ait pas encore 20 ans.
Attention quand même, parce que je pense qu'il y a forcément un moment donné, bien pour sûr, les trois, où ils vont se heurter à un petit plafond. Et c'est là que les premières difficultés arrivent. Et on le voit avec quelqu'un comme Félix Auger-Aliassime, qui a été d'une précocité incroyable aussi, un peu la même que Yannick Sinner. Et on n'avait pas vu des résultats comme ça aussi précoces depuis des Nadal et des Djokovic. Donc, il faudra voir comment il le négocie. Et c'est vrai que Félix, on le voit, ça fait quand même quelques mois maintenant que c'est compliqué. Moi, je reste très optimiste pour lui parce que c'est un garçon qui a énormément de talent, qui est très mature, qui est intelligent, qui est travailleur et qui est bien entouré. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Mais parfois, ces étapes-là, elles prennent quelques semaines, parfois c'est des mois. Et parfois, c'est plus long. Donc, ce sera intéressant de voir comment ils vont négocier ça, parce que forcément, ça va arriver à un moment donné.
Mais ça, pour en revenir au Cassineur, son début de carrière, il a volontairement zappé le circuit junior pour se frotter d'entrée au circuit futur, au circuit challenger, parce qu'il disait, j'apprends beaucoup plus vite sur ces matchs-là, parce que j'affronte des roublards ou en tout cas des gens qui sont expérimentés. Prendre ce choix-là à 16, 17, 18 ans, ça indique déjà un truc très costaud dans la tête, ou en tout cas une espèce de volonté sans faille qui, moi, me fascine un petit peu.
C'est vrai que ça peut être acquis tout double. Dans
ouais, mais c'est ce qu'avait fait Ogier Aliassime aussi. Ogier Aliassime, c'est le plus jeune vainqueur d'un challenger.
Il avait 16 ans à Lyon, ouais. D'ailleurs.
Voilà, exactement. Donc,
depuis, alors, il a fait un 8e à l'US et un 8e à l'Open d'Australie. Donc, ça montre qu'il
oui, a, et puis il a fait, à 18 ans, il était en demi-finale de Masters 1000 aussi. Donc, voilà, c'est des résultats qui sont quand même exceptionnels. Mais mentalement, c'est dur pour tout le monde. Et moi, Gilles Simon, quand je l'avais interviewé l'année dernière à la sortie de son livre, où on parlait des problèmes, le fameux mental du tennis français, et c'est pas un problème franco-français. Et il me disait, par exemple, il prenait l'exemple de Félix Auger-Aliassime, avec lequel il parle beaucoup, Gilles. Et il disait, il est hyper précoce, il défonce tout depuis qu'il a 18 ans, donc on a l'impression qu'il a peur de rien, mais il a peur de tout. Et donc, il se pose des questions, comme tout le monde. Je pense que Alcaraz, Musetti, même Sinner en sont peut-être pas encore là, mais ça viendra. Et Cyril, tout à l'heure, tu faisais une analogie avec le foot. Moi, je vais en faire une avec le basket. Le basket ou le foot US, d'ailleurs. Aux États-Unis, au moment de la draft, quand les scouts choisissent les joueurs, ils parlent toujours de niveau plancher et de plafond. Alors, il y a des équipes qui sont plus conservatrices, qui vont prendre des joueurs avec un plancher très élevé, mais qui ont une marge de progression peut-être un peu moins importante, ou alors des joueurs qui ont un plancher plus bas, mais avec un plafond potentiel ultra élevé. Je pense que Sinner, il a un plancher qui est très, 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 très haut, peut-être le plus haut de toute cette génération. En termes de plafond, c'est encore difficile à dire, parce qu'ils sont très jeunes et qu'on ne les a pas beaucoup vus, mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être Carlos Alcaraz qui a le potentiel le plus important. Mais encore une fois, il n'a que 18 ans, donc c'est difficile d'avoir des certitudes là-dessus.
Carlos Alcaraz qui affrontera l'Allemand Jan Lennard Struff samedi. Struff. Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, on l'a dit. Et Yannick
le grand Struff.
Contre Michael Immer qui a éliminé Gaël Monfils au tour précédent. On passe à la question qui fâche. Allez, c'est parti. La question qui fâche, qui concerne aujourd'hui Serena Williams. Serena Williams qui s'est défait de Danielle Collins 6-4-6-4 en 1h25 de jeu, qui poursuit son chemin dans ce tableau, ce bas de tableau à Roland-Garros. Avec cette question qu'on va se poser, parce qu'à chaque fois que Serena joue dans un tournoi du Grand Chelem, c'est pour aller gagner ce fameux 24e trophée qui lui manque et qu'elle espère tant. Est-ce qu'elle va rester bloquée à 23? C'est la question qui fâche du jour. Allez Cyril, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
C'est une vaste question. Je suis persuadé qu'elle aura encore des chances de passer à 24, en tout cas. On a eu peut-être tendance à trop vite l'éclipser ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'il y a eu une reprise un peu compliquée. Mais dans ces tableaux de Grand Chelem, c'est très, très, très régulier. Il y a une finale à Wimbledon et à l'US Open en 2018 et 2019. 2020, c'est la demi à l'US Open. Et cette année, elle fait encore demi à Melbourne face à Osaka. Donc, elle est toujours là. Alors, peut-être que la terre battue ne lui convient pas spécialement et peut-être que ça n'arrivera pas à Roland-Garros. Mais en tout cas, je suis intimement persuadé qu'elle aura encore les cartes suffisantes pour aller dans un dernier carré, voire une finale. Et quand on connaît la championne qu'elle est, je vois quand même encore ce record tomber.
Allez, Camille.
Bon, écoute, moi, je ne pense pas. Je pense pas parce que dernier carré, pas de souci. Le niveau est tellement homogène en fait aujourd'hui dans le tennis féminin qu'elle a montré depuis bien longtemps, depuis qu'elle a 35 ans, on se dit combien de temps elle va jouer, est-ce qu'elle va tenir. Elle montre qu'elle fait partie limite des quasiment le niveau pour être dans les quatre dernières. En revanche, pour aller gagner le Grand Chelem, je pense que ça commence à être difficile, et mentalement et physiquement, et que quand je vois une Świątek là jouer comme elle, je vois pas comment elle peut battre une jeune fille comme ça sur une finale, une Sabalenka. À Roland, oui, là, on parle ici pour le coup. Et là, Sabalenka est sortie, mais ce genre de joueuse-là sur d'autres grands chelems, à un moment donné, je pense que ça va être compliqué pour Serena de tenir dans la distance d'un grand chelem sur 2 semaines son niveau de jeu. Elle va avoir 40 ans. Elle a une forme olympique pour 40 ans, c'est juste incroyable. Mais par contre, elle a 25 ans derrière elle. C'est obligatoire qu'à un moment, ça devienne plus dur pour elle. Et ce n'est pas tennistique. Elle a toujours un tennis aussi explosif. Sauf que dans la durée, on l'a vu que parfois, elle commençait à fléchir sur les fins de tournoi. Et c'est tout à fait normal. Donc moi, je pense que ça va être compliqué pour elle.
On a l'impression qu'elle tombe toujours presque sur un os. Parce qu'elle a fait plusieurs finales de Grand Chelem ces dernières années. Elle a toujours perdu en finale. Et là,
c'est
là,
jamais le même os.
Et c'est ça. Et là, on a l'impression qu'il y a l'os chiantec, là, et il est peut-être un peu trop dur.
Comment tu parles ? Non, mais c'est vrai que j'ai presque envie d'être l'homme de la synthèse. J'ai envie de faire mon François Hollande.
Allez, vas-y.
Non, je suis plutôt d'accord avec Camille, moi. C'est-à-dire que Serena, oui, elle a fait depuis son dernier titre qui remonte quand même à 4 ans et demi maintenant. Donc, ça commence à dater. Elle a fait 4 finales perdues. Elle a fait effectivement 2 demi sur les 2 derniers tournois du Grand Chelem. Et il y a toujours quelqu'un pour lui barrer la route. Et ce n'est pas toujours la même personne. Donc, elle n'a pas un problème unidimensionnel. Elle a un problème multiple. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tournoi après tournoi, il y a beaucoup de joueuses qui sont… Bah, beaucoup de joueuses, non. Et pas beaucoup de joueuses capables de battre Serena. Mais en fin de quinzaine, quand on arrive en demi, en finale, il y a beaucoup de joueuses qui sont capables de la battre dans un de ces matchs clés, qui font peut-être moins de complexes face à elle aussi qu'une autre génération, c'est possible. Donc, moi aussi, j'ai tendance à penser que ça va être très, très, très compliqué pour elle. Mais en même temps, Cyril n'a pas tort. C'est-à-dire que je suis désolé, je suis vraiment du François Hollande, du centrisme.
C'est
tennis.
Une fois dans la quinzaine, hein, Laurent. Ouais, ouais, on accepte ça. Hein.
Je ne recommencerai pas. Non, mais ce qui est vrai, c'est que tant qu'elle est régulièrement en quart, en demi, voire en finale, bah, c'est difficile de dire non, elle n'y arrivera pas, elle n'a aucune chance. Maintenant, je pense qu'elle a besoin vraiment de circonstances favorables. Alors là, à Roland-Garros, probablement là où elle a le moins de chance.
C'est là où elle en a le plus.
Mais c'est vrai que les circonstances sont, pour l'instant en tout cas, son bas de tableau, si on regarde, c'est vrai qu'on peut se dire un peu hâtivement comment elle va faire pour ne pas être en finale. Moi, je pense qu'il y a des joueuses qui sont vraiment capables de la battre en bas. Mais c'est vrai qu'en termes de prestige, de palmarès, elle écrase tout en bas. Donc, mais quand bien même elle irait en finale, effectivement, et si elle devait y retrouver Iga Świątek, je pense que il risque de lui arriver ce qui lui est arrivé en finale de Wimbledon contre Alep, ce qui lui est arrivé contre Osaka à Melbourne ou ce qui lui est arrivé contre Andreescu à l'US Open en 2019.
Ça rejoint ce que tu disais de Gilles Simon, que tout le monde à un moment a un challenge à atteindre et tout le monde a peur au moment, et même Serena, qui est juste une des plus grandes championnes de tous les temps, je pense que ça lui tient à cœur, ce fameux 24e Grand Chelem.
Tu crois que ça la bloque ? Tu crois qu'elle fait une
forme non, de… pas bloquée, mais c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir un peu, il y a un peu d'émotion, j'imagine, quand elle est en finale, parce qu'elle a le niveau pour atteindre la finale, et elle ne fait pas non plus un blocage, mais c'est que c'est un mélange de peut-être un petit peu moins bien physiquement, un peu moins de joueuses impressionnées en face, que c'est notre génération, c'est un petit peu de tout ça, plus un peu d'émotion qui prend beaucoup de jus sur des moments clés comme des finales. Et parce que je pense qu'elle a ça en tête et que ça serait l'apothéose de sa carrière d'y arriver et de dire à tout le monde, vous vous trompez. Donc, tout ça fait que ça lui enlève de l'énergie. Je suis persuadée qu'elle ne peut pas rentrer sur le terrain sur une finale à Roland sans avoir un petit peu plus d'émotion que d'habitude. Elle n'est pas compétitrice, ce n'est pas possible.
Peut-être qu'avec ce tableau qui s'est un petit peu dégagé jusqu'à la finale, elle va peut-être puiser moins d'énergie pour atteindre cette finale. Elle arrivera peut-être dans un état de fraîcheur.
Ouais, mais c'est pas dit parce que ça peut aussi lui prendre de l'énergie. Ça va lui rajouter une forme de pression, forcément. Parce que là, on va déjà commencer à lui dire Serena, regarde ton tableau là. Faut être sérieux.
Déjà, dans la conférence de presse du jour tournait déjà beaucoup.
Voilà, ça commence. Donc, même si elle a énormément d'expérience et qu'elle en a vu d'autres et qu'on ne la lui fait pas, je pense que. Même peut-être inconsciemment, ça peut peut-être jouer un petit peu quand même.
En tout cas, son coach Patrick Mouratoglou l'a dit hein, sur les antennes d'Amazon, qu'elle n'était pas forcément très prête, mais on a quand même eu une métaphore ou une analogie avec le football. On prend les matchs les uns après les autres, et puis voilà, peut-être qu'au fur et à mesure, l'appétit vient en mangeant, vient en gagnant, oui. On pourra se dire, allez, c'est jouable.
Ouais, vas-y, Cyril.
Elle est un peu dans le même cas que Roger Federer. Elle a besoin d'enchaîner des matchs. Alors, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes moyens, mais elle a juste besoin de retrouver des repères. Sa préparation sur terre battue a été très, très compliquée. Et là, bah, c'est ce qu'elle expliquait en conférence de presse très bien. Elle était contente de gagner ce match-là où elle a été breakée dans la deuxième manche pour remonter et pour finalement se prouver que bah, les choses se mettaient en place petit à petit dans son jeu. Les conditions de jeu pourraient lui correspondre un petit peu plus aussi. Donc, dans ce Roland-Garros-là, peut-être que pour la victoire finale, c'est beaucoup trop, mais c'est vrai qu'elle a peut-être une carte à jouer qui était inattendue en début de tournoi.
Et Chris Evert disait tout à l'heure sur Eurosport que, en fait, c'est très bien ce qu'elle fait pour l'instant et qu'évidemment, pour gagner un grand chelem, il faut déjà passer la première semaine, mais on n'est pas encore dans le money time, quoi. Et Serena, la question à laquelle elle doit répondre, c'est est-ce qu'elle est capable de passer la vitesse supérieure si elle arrive en quart, en demi ou en finale. Ça, c'est quand même une vraie question. Et surtout ici, à Roland-Garros, ce n'est pas du tout évident.
On aura la réponse dans les prochains jours en suivant ces prochains matchs. Avant ça, nous allons passer à la stat du jour.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bon. La stat de Jeux 7 et Maths, le compte partenaire d'Eurosport pour cette quinzaine, elle concerne Reilly Opelka, le géant américain qui a perdu face à Daniil Medvedev. Et face à Daniil Medvedev, Reilly Opelka a concédé pas moins de 16 balles de break. Quand on connaît la taille et la qualité de son service, en tout cas qu'il peut avoir, c'est un record pour le géant américain d'avoir concédé autant de balles de break depuis qu'il évolue sur le circuit principal. Medvedev en a converti 5. Finalement, ce qui lui a rendu le match assez facile.
C'est un scénario très bizarre face à Medvedev. Il a commencé le match en breakant, si je ne m'abuse, et derrière, il s'est complètement écroulé. Et alors, on parlait de son service, son jeu de volée a été catastrophique aussi. Et fatalement, quand on enlève le service et la volée à Opelka, bah, les armes qui lui restent à disposition sont quand même plus mesurées. Il était dans un mauvais jour et même l'attitude qu'il avait était plutôt négative en fait. Donc, ça a été un match vraiment sans et on n'a pas trop reconnu celui qu'on avait vu pendant la préparation sur terre qui était surprenant et rafraîchissant. Là, il est passé complètement à côté, quoi.
Est-ce qu'il s'est mis la pression, sachant que des 5 meilleurs joueurs du monde, il s'est dit Medvedev, c'est peut-être celui que je peux prendre?
Possible. Honnêtement, c'était vraiment difficilement compréhensible parce qu'il a fait des grosses fautes et même sur des volets honnêtement qui étaient jouables. Il y avait beaucoup de fautes directes en fait. Et une fois que ces deux réglages-là étaient déréglés, il a jamais retrouvé le fil du match. Donc peut-être que c'est une question de pression parce que j'ai pas l'impression que Medvedev ait fait non plus. Il a été très sérieux et très costaud, mais c'était pas non plus injouable.
Oui, sachant que Opelka, la pression, il a déjà fait, il était déjà en finale de Master 1000, non ? Si je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps que ça.
Demi-finale à Rome.
Demi-finale à Rome, donc bon, il a déjà joué des matchs à enjeu, etc. Mais malgré tout, effectivement, il est passé un peu.
Ouais, moi, j'étais vraiment déçu par Opelka. C'est un joueur qui progresse. Alors, ça ne se voit pas forcément beaucoup en termes de jeu, mais il a un jeu qui est assez comme ça au premier abord, mais il bosse, quoi. Il a beaucoup bossé physiquement, il a beaucoup travaillé techniquement, son coup droit notamment. Donc là, je pense qu'il doit être déçu parce que, au-delà de savoir s'il allait gagner ou perdre, là, il sort de son match. Il a joué une heure et demie et il n'a pas existé. Il a mené 3-1 dans le premier et après, c'était fini. Donc je pense que c'est quand même décevant. On en parlait un peu l'autre jour avec Richard par rapport à Nadal où il avait dit je ne voudrais pas sortir du court comme la dernière fois que je l'avais joué à Roland. Où j'ai pris aucun plaisir parce que je n'avais pas joué. Hier soir, il a pris 3-7 comme prévu, mais je pense que au moins pendant une heure et quart, il a pris du plaisir. Aujourd'hui, je pense qu'Opelka, il n'a vraiment rien à retenir de son match. Et c'est la défaite est décevante, mais la manière doit être très frustrante pour lui.
On passe à l'affiche de samedi. Ça vous dit ?
Oui.
Allez, on va passer sur une affiche entre deux joueuses intéressantes. Corrie Goff, 17 ans, contre Jennifer Brady, 26 ans, deux Américaines. Une seule opposition entre les deux joueuses, c'était en août dernier, en demi-finale à Lexington, et c'était Brady qui s'était imposé 6-2-6-4. Mais depuis, Corrie Goff a joué, a grandi, a progressé. Qu'est-ce que vous attendez comme match entre les deux joueuses, Camille ?
Je pense que Brady a pour l'instant plus d'expérience de ces moments-là en grand chelem. Elle l'a montré en étant en finale à l'Open d'Australie et une demi-finale à l'US aussi, si je ne m'abuse. Donc, lors de son dernier match, elle a montré une telle consistance dans son jeu. Moi, j'adore le jeu de Coco Gauff parce qu'elle met la stratégie au cœur vraiment de son jeu. Mais il lui manque peut-être un petit peu de puissance et un vrai coup fort pour justement empêcher Brady d'utiliser ce gros coup droit très lifté qui est ultra gênant sur terre. Et Brady sert très bien, en tout cas sur les matchs qu'elle a fait ici. Donc, bon, j'attends que Coco Gauff, grâce à sa science tactique, arrive justement à tirer son épingle du jeu. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour aller chercher une victoire face à Brady, qui pour moi une joueuse dont on parle peu. On se demande même si elle est 20, 30, on ne sait pas. Alors qu'elle est en train de montrer qu'elle est 14 et elle a un niveau constant en grand chelem qui est juste hallucinant. Mais on n'en parle pas, on se demande qui c'est. Donc, non, pas encore le moment, je pense, pour Coco Gauff. J'espère qu'elle me fera mentir, bien sûr, parce que c'est aussi une next-gen chez les filles, très intéressante.
On en entend parler depuis quelques mois, voire peut-être plus d'un an, alors qu'elle n'a que 17 ans encore, Coco Gauff. C'est impressionnant.
2004.
Est-ce que sur sa lancée à contrario de ce que dit Camille, sur sa lancée de sa demi à Rome et ses sensations peut-être sur terre, elle peut gêner Jennifer Brady ?
Ah ouais, la gêner, oui, je pense. Oui. Elle a quand même des armes, ça c'est incontestable. Je ne suis pas sûr que la terre battue soit la meilleure surface non plus de Jennifer Brady. Enfin, je suis même à peu près sûr que ce n'est pas le cas. Et Coco Gauff, elle a beaucoup de confiance quand même. Donc, évidemment, c'est vrai tout ce qu'a dit Camille. Et Coco Gauff, elle a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Je ne sais pas. On dit souvent que les duels entre compatriotes sont difficiles à appréhender. Je ne sais pas si c'est vrai pour les Américaines, d'abord parce qu'elles sont très nombreuses.
Je pense chez les Américains, ou alors comme chaque État est un pays, elles ne considèrent pas qu'elles sont du même pays.
Ça, je pense que
on ne voit pas un niveau baisser forcément lorsqu'elles se jouent.
Non, c'est vrai. Et puis, elles sont tellement nombreuses, là, maintenant, depuis quelques temps, les Américaines, dans le top 20, 30, 50, c'est vraiment, elles ont une grosse, grosse génération, enfin, génération au sens large, hein, mais là, il y a vraiment un gros réservoir. Donc, ce sera quand même intéressant de voir si Coco Gauff arrive à s'exprimer pleinement. Si c'est le cas, moi, je pense que, vu ce qu'elle a montré ces dernières semaines, si elle se libère, si elle met son jeu en place, en tout cas, il y aura la place pour elle pour passer. Mais Brady, c'est vraiment une joueuse qui est compliquée à jouer. Hein. C'est très, très dur pour la battre. Elle lâche rien en plus. Donc, il va vraiment falloir que Coco Gauff fasse un très bon match, très cohérent et sans trop de baisse de régime, parce que sinon, elle va le payer.
Ouais, vrai révélateur. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Adrien. De l'extérieur, il y a eu Wimbledon 2019 où elle est née à la face du monde et où elle a battu des records d'audience sur la BBC. Depuis, on en parle un tout petit peu moins, évidemment. Mais là, sa prépa sur terre battue, elle est quand même vraiment intéressante. C'est une surface où elle a gagné, je crois, à Roland il y a 3 ans quand elle était en junior.
Ouais.
Elle n'avait que 14 ans. C'est ça qui est complètement fou. Donc moi, plutôt envie de... Ouais, le choix de la fraîcheur et de la jeunesse, j'ai envie de miser aussi sur Gauff parce que pour l'instant, elle fait une bonne quinzaine et surtout, elle a fait une très bonne préparation sur terre.
Et puis en grand chelem, alors elle a eu une ou deux défaites décevantes, mais enfin, elle a perdu sur Svitolina, sur Alep, sur Osaka. Il faut relativiser aussi. C'est vrai qu'on lui en demande beaucoup, elle aussi, parce qu'on sent que c'est un phénomène et c'est difficile de ne pas pressentir qu'elle va être très, très, très forte. Enfin, voilà, quand à 16, 17 ans, vous jouez des joueuses de ce niveau-là qui sont top 5, top 10, il est aussi normal de perdre. Et comme elle n'était pas encore suffisamment montée au classement, souvent
elle a joué tôt. Ses... Ouais.
Voilà, elle les a joués tôt, donc c'était très compliqué pour elle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle monte progressivement au classement. Donc, dans les prochains grands chelems, elle sera, à mon avis, quasiment tout le temps tête de série maintenant. Et ça va être plus simple pour elle. Elle va engranger de l'expérience au fur et à mesure qu'elle va passer des tours. Et quand elle va commencer à jouer ces joueuses-là en huitième ou en quart, ce sera différent pour elle.
Au pronostic sur ce match ?
Alors, 2-7 accrochés pour Brady.
Non.
Goff en 3-7.
Goff en 3-7 aussi.
Très bien. Je
dirais pas je crois que Bertrand...
Mais en ce moment, c'est Laurent qui mène les pronostics avec 9 points.
De très peu. Hein.
Camille 8 et Bertrand 6. C'est serré. Mais on suit ça, on suit ça.
Bertrand nous souffle dans l'oreillette qui mise aussi Goff en 3-7.
Ah, ok. Il ne donne pas le résultat, il ne donne pas le score. Le score non, pas
ça peut être quand le il n'est pas là, il n'a aucun droit.
Ça peut être le tournant si Camille…
Ouais, moi, je prends un risque, là, j'ai l'impression. Hein.
Non, mais si
Brady 2-7. Hein.
Tu peux mettre 3 points, tout le monde.
Le match qui sera à suivre en quatrième rotation sur le Suzanne Lenglen. En espérant que les matchs précédents se soient déroulés de manière correcte, sans avoir duré trop longtemps, pour qu'il y ait un peu de public pour assister à, à cette belle affiche. Merci. Merci à tous les trois d'avoir
participé. Merci à vous, les garçons.
D'avoir participé.
Merci Camille, merci Adrien, merci Cyril.
Terre débattue, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter sur les applis de podcast, nous donner 5 étoiles, nous laisser des commentaires. On les lit. On essaye de prendre en compte vos remarques. Et puis abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, suivez bien l'actu sur eurosport.fr. Et si vous avez le temps, comme Cyril Morin, n'hésitez pas à aller taper la balle. Allez, salut.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.